Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel écho des rencontres du légendaire qui se sont déroulées les 9 et 10 novembre dernier dans le cadre du Festival du Légendaire. Cette émission 2019 était celle des 20 ans de cet événement eurélien désormais bien connu, organisé par la compagnie AMSA, événement qui vous permet chaque année d'explorer le conte et l'imaginaire sous toutes ses formes. Radio Grand Ciel était partenaire des rencontres de l'imaginaire et a assuré la captation sonore des tables rondes proposées au cours de ce week-end. Le thème du festival cette année était la métamorphose. Je vous propose donc aujourd'hui la troisième table ronde de ces rencontres qui avait pour thème précis les transformations du vivant et les enjeux de la transgression dans les mythes, la science-fiction et le polar. Autour de la table, Alain Absir, romancier, lauréat en 1987 du prix Femina, administrateur de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, la SOFIA, également le romancier Thierry Berlanda et le romancier Jean-Luc Bizien. Pour animer cette table ronde, le conteur Patrick Fishman.
Vous êtes romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, de thrillers religieux comme Lazare ou Le Grand Sommeil. Vous êtes l'auteur d'une bonne trentaine d'ouvrages et vous avez obtenu le prix Femina pour votre livre L'égal de Dieu. Je citerai aussi L'homme à tête d'oiseau. J'ai lu quelque part que vous aviez à cœur d'offrir l'espoir aux âmes les plus déchirées. Vous dites vous-même qu'écrire est une empoignade sans merci avec les images, avec les sentiments et avec les mots. Vous dites aussi que vous êtes un écrivain caméléon. C'est ça, hein? Et vous avez écrit sur Francis Bacon, Jane Seberg, sur Robespierre. Et ben voilà, vous avez été aussi président de la Société des gens de lettres et dirigé jusque récemment la SOFIA, l'organisme qui gère les droits des auteurs et des éditeurs en bibliothèque. À côté de moi, Thierry Berlanda. Vous êtes écrivain, philosophe, conférencier, intervenant en entreprise. Vous êtes aussi l'auteur de romans noirs, comme l'affaire Creutzwald, des thrillers, l'insigne du boiteux, ou des techno-thrillers, Naïja, Jurong Islang ou Cerro Rico. Leur Molou met en scène une chasse à l'homme au Moyen-Âge menée par des officiels douteux. Vous dites qu'un écrivain est d'abord son style et que le style est d'abord un rythme. Et chez vous, cette cadence, c'est la rencontre de la littérature classique et du rock'n'roll. Malgré la grande variété apparente de ce que vous produisez, vous dites ne poursuivre qu'un seul but, montrer l'humanité nue dans sa vérité. Vous mettez donc là en mots, en rythme et en musique votre vision philosophique proche de la phénoménologie. Jean-Luc Bizien, votre monde est celui du polar, de la fantaisie, l'univers des mangas, des jeux de rôle. Vous avez visité l'imaginaire médiéval comme celui du 19e siècle et vous êtes le père de créatures fantastiques. Vous êtes l'ami des dragons et l'ami d'une cinquantaine d'ouvrages. Parmi vos œuvres, dont plusieurs ont été primées, j'y citerai Katana, la trilogie des ténèbres, la série des sans-abîmes, des quêtes initiatiques comme l'appel du dragon. Vous êtes membre de la Ligue de l'imaginaire et vous dites que votre bonheur est de raconter des histoires, ça j'ai beaucoup aimé, que vous plongez vos héros aventureux dans des situations inextricables dont ils se sortent finalement très bien tout seuls, vous attachant vous-même aux images fondamentales du début et de la fin. Alors la première question que je voudrais vous poser à tous les trois, dans la genèse de votre parcours à chacun, est-ce que vous avez rencontré un grand mythe, une parabole ou une fiction puissante qui marque finalement votre œuvre d'une façon ou d'une autre? Et est-ce que dans ce mythe ou ces mythes marquants, dans ces grandes images, il y a quelque chose à voir avec la transgression?
Moi, ce qui m'a marqué dans mon enfance, dans les premières fois, c'était dans des versions illustrées, et depuis, c'est au moins une fois par an, avec une grande fidélité, une grande constance, c'est l'Odyssée. L'Odyssée, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est, je crois, le mythe, mais je crois que rien n'est plus réel que ce mythe du retour à soi, du retour à ce que l'on est, de la rencontre avec l'authenticité que nous portons et qui souvent dans le monde profane de nos existences quotidiennes est non pas réalisé, mais au contraire évité, dévoyé, masqué. Et finalement, on s'aperçoit, quand on y fait un peu attention, que l'essentiel nous est souvent confisqué, avec notre consentement d'ailleurs. Et je tiens beaucoup, moi, à cette notion de retrouvailles avec soi, dont, à mon avis, l'un des meilleurs vecteurs est d'ailleurs le livre. Et pour moi, c'est en particulier celui-là, mais tous les autres aussi, bien sûr.
Et s'il y a un aspect transgressif, ce serait quoi ?
La transgression, c'est que ce discours que je viens de tenir renverse l'hypothèse de la pensée dominante, de la pensée mainstream d'aujourd'hui, selon lequel on se réalise dans ce que l'on fait, quand on fait quoi qu'on fasse, j'allais dire. Or, les gens qui se réalisent dans ce qu'ils font ne se réalisent dans ce qu'ils font que lorsque ce qu'ils font correspond à ce qu'ils sont. Et c'est très peu souvent vrai, en fait. Alors, voilà pour moi la transgression, c'est de renverser la proposition de l'accomplissement dans le faire en réinstaurant l'accomplissement dans l'être, ce qui est assez peu fréquent, hélas. Et je sais que c'est pas facile, et pour moi, le premier, ça n'est pas facile, mais au moins toujours se servir de ce paradigme, de cet horizon-là, de l'accomplissement dans l'être, pour ne serait-ce que réorienter, réajuster ce que l'on fait à ce que l'on est.
Alain Apsi ?
Moi, sans hésitation, en l'occurrence, le grand livre, enfin, c'est pas un mythe, c'est beaucoup plus complexe que ça, de mon enfance, de ma jeunesse, c'est la Bible. La Bible, toute la Bible, y compris les évangiles. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que j'ai été élevé dans une famille extrêmement catholique, extrêmement, donc peut-être trop, mais enfin c'est comme ça. Et pour ainsi dire, c'était le seul livre disponible à la maison. Et c'est vrai que les histoires racontées dans la Bible, que je ne comprenais pas forcément toutes, m'ont très 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 vite fasciné. Je crois que c'est le plus grand livre d'histoire que nous ayons entre les mains, en tout cas en Occident. C'est un nombre invraisemblable d'histoires, toutes mises bout à bout, mais qui forment un ensemble et qui ne le forment pas en même temps. C'est une mosaïque, c'est une explosion d'histoires. Et ça a absolument déterminé, pour reprendre votre question, ma vie d'écrivain, et je pense même le fait tout simplement que je sois devenu écrivain. Même si d'autres livres, en tant que livres, ont été très importants dans ma vie, Michel Strogoff de Jules Verne par exemple, mais ça n'a rien à voir. Pour revenir à votre question, d'abord, chez moi il y avait de l'émerveillement, il y avait de la fascination, c'était à la fois alors extrêmement spirituel, il y avait du magique, bien sûr, ô combien, il y avait du guerrier, il y avait de la morale, il y avait du merveilleux, enfin tout était là. Et effectivement, pas tout de suite, il a fallu que je publie quelques romans pour oser y revenir. Et vous évoquiez tout à l'heure Lazare ou le Grand Sommeil. Oui, c'est pas une réécriture, parce que ça n'a pas besoin d'être écrit. Mais disons que c'est un prolongement de récit autour du personnage de Lazare, qui n'apparaît que dans l'évangile de Saint Jean, très brièvement en réalité. Et toute l'histoire, tout l'enjeu pour moi consistait à essayer de résoudre une énigme qui m'avait taraudé depuis mon enfance, mais qu'est donc devenu Lazare après sa résurrection, parce qu'on le laisse tomber. Donc si on le laisse tomber, c'est que j'ai supposé que peut-être Jésus l'avait lui-même laissé tomber. Donc c'est venu de là, et c'est transgressif. C'est profondément transgressif. Ça m'a valu d'ailleurs quelques mésaventures. Ça m'a valu, à l'époque où le livre est sorti, bon Dieu merci, pour moi c'est un livre qui a rencontré un certain succès, et pas seulement en France, jusqu'aux États-Unis, mais suscitant à la fois des enthousiasmes et à la fois des réprobations violentes, jusqu'à recevoir des menaces de mort. Et donc, question de transgression, ça y allait. Et ça a continué avec L'égal de Dieu, pour lequel, voilà, j'ai le prix Femina, mais qui est aussi transgressif, c'est une histoire de chevalerie, mais L'égal de Dieu, c'est l'écrivain qui peut faire renaître le chevalier mort par la faute de l'écuyer qui en était éperdument amoureux. Tout ça au XIe siècle. Ça a été Le pauvre d'Orient, François d'Assise. François d'Assise en Égypte pendant la sixième croisade, histoire tout à fait vraie, et ses rencontres avec le sultan Malek al-Kamel. Mais entre autres, bon, déjà ce dialogue est quelque chose de surprenant, il a existé. Hein. Et la transgression, elle est là, parce qu'elle est, c'est à la fois un réaliste, c'est à la fois un récit. D'ailleurs, c'est le seul de mes livres que j'ai appelé récit, et pas roman ou nouvelle. Et on voit par exemple un François d'Assise qui n'a pas qui est atteint de la lèpre à la fin de l'histoire. Bon, voilà. Et c'est pas bon. C'est transgressif pour beaucoup de raisons. Enfin, etc., etc., etc. Et de toute façon, moi j'aime beaucoup les histoires. J'aime beaucoup qu'on m'en raconte. J'aime beaucoup en découvrir. Mais j'adore absolument les repenser, les reformer pour les faire dégorger, pour faire dégorger tout ce qu'elles ont à dégorger. C'est pour ça que j'ai aussi travaillé sur des personnages réels, vivants, comme le peintre Francis Bacon, à travers sa relation avec son modèle Georges Dyer, qui a fini par se suicider d'ailleurs à Paris. Ça a été le cas avec l'actrice Jean Seberg, que j'ai connue quand j'étais jeune, puisque j'ai commencé par être comédien dans ma vie, et que j'ai rencontré un jour sur un plateau de cinéma, et que d'une certaine façon je n'ai pas lâché, parce qu'on a continué à se croiser pratiquement jusqu'à sa mort, et j'ai tout réinterprété son histoire, enfin voilà, etc. Mais avant tout, cette explosion de récits avec le territoire que ça m'a ouvert, oui, est incontestablement à l'origine de mon écriture, même si je n'ai pas écrit que là-dessus.
Jean-Luc Bizien.
Je me découvre deux points communs au moins avec Thierry Berlanda. D'abord la culture rock et la passion du rythme dans l'écriture. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand je rencontre des enfants, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, j'essaie de leur expliquer ça, qu'il y a une rencontre qui se fait parce que c'est un tempo particulier, parce que chacun a sa musique, et qu'un livre, les livres sont comme un poste de radio allumé. On peut passer devant et ne percevoir qu'un vague brouhaha, parce que ça ne nous parle pas, parce que le tempo n'est pas là, parce que la musicalité qui nous parle, qui nous interpelle n'est pas là, et puis d'un seul coup on va s'arrêter, on va découvrir, émerveiller un morceau donné, et puis peut-être avoir envie de creuser, et ainsi de suite. Donc là je suis complètement d'accord. Et puis deuxième point commun, moi j'avais une grand-mère paternelle qui me lisait, qui me faisait beaucoup la lecture quand j'étais petit, et ça a démarré aussi avec l'Odyssée. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que en toute immodestie, je me suis longtemps pris pour Ulysse, parce que j'ai eu la chance de naître au Cambodge, et puis ensuite, après un rapide passage en Bretagne, au plus près des racines, je suis parti aux Comores, et donc j'ai beaucoup voyagé, et que le rapport à la mer, en fait, à partir du moment où j'ai grandi, j'ai eu la chance de faire enfance et adolescence sur une île, le rapport au voyage, à la mer et à la différence était là, et j'ai eu cette petite chance là aussi, c'est d'être toujours l'étranger partout où j'allais. Voilà, c'est-à-dire que en Asie j'ai fini par être persuadé que j'étais asiatique, et puis en arrivant en Bretagne on m'explique que non. Alors après, quand j'arrive aux Comores, je ne sais plus si je suis jaune ou blanc, et on s'en fout. Et en fait, le regard était là, et ça m'a amené ça, en fait, cette envie d'aller vers l'autre, donc de me prendre pour Ulysse, d'aller découvrir, fouiner partout. Et transgression, je ne sais pas, j'ai toujours été j'ai longtemps, mais alors c'était au millénaire précédent, été un jeune homme en colère, donc en révolte avec tout. J'ai pas été foutu de rentrer dans le moule de l'éducation nationale. J'étais toujours le punk de service, et c'était, voilà, j'étais pénible et tout le temps comme ça. Et puis j'ai, comme Ulysse, jamais été foutu de poser mes valises quelque part. Il y a pas longtemps, je suis retourné sur les lieux du crime à Caen, retrouver mon fils aîné, qui est ingénieur du son à Caen, et qui me dit, maman m'a dit que tu avais eu plusieurs adresses. Donc on s'est baladé dans Caen, où j'ai vécu 25 ans. Donc je pensais qu'effectivement j'avais été très stable pendant 25 ans de ma vie, et j'ai découvert que j'avais eu 12 adresses différentes. Donc il y a un vrai trauma, il va falloir... Mais c'est bien de me poser la question, je vais pouvoir y travailler. Voilà.
Bon, la deuxième question, que je vais d'abord ouvrir avant de vous la préciser pour chacun d'entre vous. On traverse aujourd'hui un moment dramatique pour la nature et l'humanité. Nous voyons à l'œuvre une double transgression, celle d'un humain qui se prend pour le centre du monde et le détruit, et celle d'une humanité prête à désobéir à ses propres lois égoïstes et à sa folie pour rejoindre l'ensemble du vivant. La question est vaste et pourtant centrale. Qui transgresse et qui transgresse quoi? Y aurait-il une conscience impersonnelle qui puisse imaginer à travers ses auteurs de retourner le boomerang à ce monde qui transgresse les lois de la nature? Et je pense ici à plusieurs de vos personnages animés justement par la quête et capables de prendre des risques insensés plus par fidélité à ces lois naturelles que par bravade. Alors je vais préciser pour chacun d'entre vous, parce que j'ai fouillé ça dans vos, dans vos biographies. Thierry, dans vos livres, nous avons parfois affaire à des enquêteurs un peu borderline, dépressifs ou blessés par la vie. Est-ce qu'il faut être écorché pour voir la blessure du monde et oser transgresser les fragiles équilibres imposés par l'injustice ou la technologie?
Alors, je serais tenté de répondre oui. C'est-à-dire que je n'imagine pas que quelqu'un de parfaitement satisfait de soi et de ce qui lui arrive soit le mieux disposé à pressentir les failles et les dangers que l'humanité court, de par même le sort qu'elle réserve à son environnement ou d'ailleurs à sa propre nature. Donc j'aurais tendance à penser que oui, mais je pourrais un jour, par gageure, peut-être imaginer que non, et que quelqu'un qui est un pharmacien prospère à Périgueux pourrait tout à fait avoir une acuité particulièrement forte sur les malheurs du monde. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le techno-thriller, pour moi, c'est l'occasion. Je veux dire, dans cette série-là, Neija, Jurong Island et Serorico, c'est l'occasion pour moi de développer vraiment des thèmes qui, comme philosophe, m'intéressent depuis vraiment 25 ans. C'est que je crois que l'humanité est en train, et depuis immémorialement, je dirais, de s'intenter à elle-même un procès qui peut la mener vraiment de manière imminente à sa perte. C'est la passion de la destruction des rapports, n'interprétez pas mal mon terme, des rapports charnels. C'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la chair, avec l'incarnation, est systématiquement déjoué dans une édification technologique, technocratique, au sens fort du terme, qui, à mon avis, vise un but, c'est de séparer l'humanité d'elle-même, c'est-à-dire de sa capacité à éprouver quelque chose, et dans quoi et par quoi éprouve-t-on quelque chose, par et dans sa chair. Donc c'est, pour moi, c'est ça le grand enjeu.
Vraiment, on n'a pas travaillé, mais ça tombe tout à fait, parce que ça va être la question que je veux poser à Alain Apsir. Justement, dans Lazare ou le grand sommeil, votre thriller religieux, vous nous parlez de la dignité du corps. Et ce corps serait-il en danger dans son intégrité, dans sa respiration avec le monde? Et en contrepoint, on voit dans votre Robespierre que celui qui s'éloigne du corps, qui le nie ou le méprise, se tourne vers la violence et se comporte même à l'inverse de ce qu'il voudrait promouvoir. Peut-on élargir cette idée du corps symbolique, du corps de chacune et de chacun avec le corps du monde? Et comment désobéir aux injonctions pressantes et vigoureuses d'en faire un lieu de consommation ou un endroit sans vie réelle?
Oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé autour des métamorphoses du corps. C'est pour ça que j'écris sur Francis Bacon aussi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans sa peinture. De la dégradation du corps, ou bien de la transgression des lois naturelles. C'est le cas de Lazare, oui, qui non seulement est ressuscité, mais son gros problème, c'est pas d'être ressuscité, c'est de ne plus pouvoir mourir. Ce qui est une chose abominable, en fait, car moi, j'ai pas du tout envie d'être mort, mais enfin, c'est quand même la mort ce qui nous permet de vivre aussi, puisque la brièveté de la vie nous contraint à un activisme pour essayer d'en faire quelque chose, parce que sinon, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Mais cette thématique du corps, c'est très particulier, parce qu'à la fois, on porte aujourd'hui le corps, sans jeu de mots, au nu, c'est-à-dire que le corps est devenu un objet de culte, et de culture, et de, pas que de culturisme, mais de culture. Il faut l'entretenir, il faut le soigner, il faut en faire quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'il est au départ, mais voilà. Je crois que c'est une course un peu à l'abîme, personnellement, parce que de toute façon, il y a un moment où ça s'arrête, parce que nous ne sommes pas maîtres du corps. Et ça, c'est de notre corps. Bien sûr que non. Et ça, c'est vraiment une thématique aussi qui m'a toujours beaucoup intéressé à travers mes livres. Un corps, ça se déforme, ça s'abîme. Et si on en prend trop soin, c'est particulièrement périlleux aussi. Donc, voilà. Mais ce corps comme une espèce de métaphore, finalement, de notre... du monde, enfin de l'univers, c'est assez ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on semble enfin vouloir prendre soin de la planète. Très bien, bravo, à condition de ne pas tomber dans l'absurdité non plus, parce que bon, c'est quelque chose qui peut quand même être un petit peu préoccupant, de ne pas tomber dans l'extrémisme, de ne pas commencer à aller... agresser les pauvres bouchers qui dans ces métiers, hein, même si on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, il y a une espèce de radicalisation, il me semble, aujourd'hui, dont il faut se méfier, même si le but est louable, et bien entendu, il faut tout faire pour protéger la planète. Mais juste un petit mot, parce que vous avez, tout à l'heure dans votre introduction, je suppose que vous faisiez allusion à ceux qui se retirent de l'accord de Paris, hein, c'est ça, je
oui,
suppose.
Je pensais hein. Bon. Pas ce point précis, non.
Bon, moi j'y ai pensé tout de suite. Oui, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à un véritable extrémisme, là aussi, puisque c'est l'absurdité absolue pour essayer à tout prix de se maintenir au pouvoir. Oui. On raconte des bobards, c'est le récit, c'est le nouveau récit à l'envers. Voilà. C'est très intéressant pour nous, comme observateurs, oui. Mais c'est très inquiétant pour nous tous, pour la planète.
Jean-Luc Bizien, Teilhard de Chardin disait que seul le fantastique a des chances d'être vrai. À travers votre œuvre, vous maintenez une belle énergie à déployer les ressources de l'imaginaire. Est-ce que c'est le rôle de la fiction, de la science-fiction, de la métaphore ? Est-ce que c'est le rôle du jeu de rôle, d'explorer au-delà des frontières limitées de ce que nous appelons la réalité, notre saisissement devant le mystère, et imaginer ou jouer, est-ce que c'est pas aussi transgresser ?
Je crois que c'est pas le rôle d'un genre en particulier, je pense que c'est le rôle de la littérature, que toute forme de littérature est là pour nous questionner en permanence sur ce que nous sommes. Très longtemps, en France en tout cas, c'est la littérature dite blanche, la littérature générale, qui nous parlait de la vie, qui nous parlait de ce que nous étions, qui nous parlait des autres, qui nous aidait à nous construire. Et puis petit à petit, en tout cas c'est le constat que j'ai fait, la littérature générale a un peu perdu pied, a perdu ses repères, a arrêté de nous raconter des histoires. Et puis les genres sont montés en puissance, on s'est emparé de ça. Et d'un seul coup, les mauvais genres, les gens sont mis à découvrir qu'il y avait des auteurs qui savaient écrire, qui nous racontaient des histoires et qui nous parlaient de la vie, en fait. Et il y a eu une lente dérive comme ça, ce qui fait que d'abord la science-fiction, hein, chronologiquement, d'abord la science-fiction s'en emparait, et puis ensuite le polar au sens général. Mais pour en revenir à ce que mes deux camarades ont évoqué, puisqu'on parlait du corps, il y a un formidable paradoxe humain en ce moment, c'est que on a tendance à vouloir oublier notre animalité, notre nature profonde. On est là toujours à se mettre en distance, à essayer de se polisser, de se lisser. Et on est là aussi à mettre de plus en plus de distance avec la violence qui est inhérente à l'humain. Moi, tous mes bouquins, en fait, sont une obsession que j'ai. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi le plus doux, le plus aimant des pères de famille peut se transformer en bête en une fraction de seconde et basculer dans l'ultra-violence. Et ce que je constate aussi dans nos sociétés, c'est que on est sur cette espèce d'ultra-distance et d'ultra-contrôle. Je me rappelle que quand j'étais môme, il ne se passait pas un samedi soir sans qu'il y ait des morts en France. À n'importe quelle balle de campagne, il y avait de la bagarre, on sortait des lames, et personne ne s'en émeuvait. Aujourd'hui, quand il y a un mort, et c'est vrai que c'est un drame, on est complètement paniqué. Alors on a cette espèce de mise en distance avec la violence, et en même temps, on est en train de légitimer une ultra-violence sur la planète. On est en train de légitimer le fait que Trump décide sur un claquement de doigts que finalement la pollution, c'est pas grave. On est en train de légitimer le fait que des milliers de personnes, avec ou sans gilets jaunes, sont descendues dans la rue pour essayer de juste dire qu'ils avaient besoin de manger et de vivre dignement. On est en train de légitimer plein de choses comme ça. Et c'est, pour moi, c'est ça le paradoxe. La transgression, elle est où? Je ne sais pas. C'est de dire que d'un côté, on va regarder, on va s'émouvoir de grands principes, et de l'autre côté, au quotidien, on va... J'ai la chance de vivre au sud de la Corse, je suis repassé par Paris pour venir vous voir, et j'ai encore vu des gens enjambés d'autres types, qui étaient couchés sur le sol, sans se poser de questions. J'ai encore entendu des gens râler dans le métro, parce que le métro avait un quart d'heure de retard, parce que, selon la terminologie mise en place par la RATP, il y avait eu un incident voyageur, ce qui signifie quand même qu'un homme ou une femme, tellement au bout du bout, s'est jeté sous un train. Et que, au lieu de compatir, au lieu d'éprouver un minimum d'empathie avec cette terrible souffrance, j'ai entendu des gens soupirer et râler. Donc voilà, il y a ce paradoxe permanent, et je pense que si on a un boulot aujourd'hui, quels que soient les sujets qu'on aborde, c'est peut-être d'amener cette réflexion-là, de questionner toujours la part d'humanité et de ce que nous sommes et de ce vers quoi nous tendons. C'est en tout cas voilà, ma grande question.
Merci. La question suivante, celle est pour tous les trois. Elle est un peu coquine, mais j'aimerais bien que ça marche. Est-ce que vous avez déjà eu un ou plusieurs personnages qui se sont rebiffés et qui ont transgressé certaines de vos opinions, ou même de votre propre moralité, de vos dessins, des idées que vous faisiez sur tel ou tel sujet, un personnage qui vous a fait creuser et même changer ?
Je dirais que oui. Alors ça, c'est une aventure que relatent la plupart des écrivains que j'ai entendu en parler, mais je pense qu'elle est vraie. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du cadre qu'on a prévu pour l'évolution de nos personnages, on est parfois au quart ou au milieu du parcours un peu obligé aussi de se fier à la direction qu'eux-mêmes se sont donnée. Hein. Et donc, moi, il m'est arrivé d'être confronté à des personnages que je considérais au début être mes porte-parole et qui sont allés beaucoup plus loin que je n'aurais été et qui sont entrés en contradiction avec mes propres doctrines, pour peu que j'en aie d'ailleurs. Donc oui, la réponse est oui, c'est arrivé. D'ailleurs, je dirais malicieusement que j'espère que ça arrivera encore. Oui, dans les techno-thrillers, là, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont tu as parlé aussi, il y a certaines positions sur, par exemple, l'attention qu'il faut avoir à la démographie, qui était un thème très à la mode quand j'étais gosse et qui a été complètement mis sous cloche par bien-pensance et par bien-séance depuis 50 ans, alors que c'est le problème des problèmes. Je veux dire que si on est moins nombreux sur la Terre, on pollue à moins, c'est clair. Eh bien, c'est vrai qu'un de mes personnages dans ces derniers romans s'est emparé du sujet d'une manière que je trouve péniblement radicale, je dirais. Mais ce qui n'est pas ma pensée.
Alain Absir ?
Oui, bien sûr. Les personnages ne dépendent pas entièrement de notre volonté. Hein. Heureusement. Moi, je crois tout de même beaucoup au hasard. Enfin, je crois que quand on se lance dans la grande aventure qu'est l'écriture d'un roman, il y a forcément des éléments perturbateurs, obligatoirement. Et il faut surtout pas chercher à les éviter. Voilà, le surgissement du hasard, de toute façon, pour moi, est souvent un des éléments essentiels pour la réussite d'une œuvre, de tout type d'art confondu en réalité. Et j'aime assez que mes personnages m'échappent, quels qu'ils soient, des personnages très importants, moins importants, plutôt bons, plutôt méchants. De toute façon, nous savons très bien que les personnages, comme dans la vie, comme les gens dans la vie, ne sont jamais tout noirs ou tout blancs. Ils sont les deux à la fois. C'est un mélange. Pour certains, ils seront comme nous sommes, pour certains, tout à fait admirables, et pour d'autres, tout à fait exécrables. Bon, je le pousse un peu à fond, mais c'est comme ça. Donc, j'aime ce hasard. Je pense toujours à Vargas Llosa qui explique que c'est dans La guerre de la fin du monde, je crois, son gros roman, qui se passe au siècle dernier, donc au Pérou, et dont le héros qui est dans une bataille au milieu du roman, qui fait 450 ou 500 pages, et une balle part, et à la grande stupéfaction de l'auteur, la balle vient frapper en pleine poitrine son héros, qui comptait bien emmener jusqu'au bout. Il a accepté et il l'a laissé mourir au bas de la page. Et puis bonne chance. Et puis résultat, il a écrit un très grand livre. Moi j'aime ça beaucoup.
Oui, oui.
Beaucoup.
Moi, j'ai de temps en temps un personnage qui prend le pouvoir, qui s'impose. J'ai fait une série pour 10-18 qui se passe à la fin du 19e siècle et j'avais besoin d'un. C'était une héroïne qui était un peu perdue dans une grande maison très inquiétante, comme ça on parlait de fantastique. Voilà, elle est. Le décor lui-même était assez oppressant et j'avais besoin d'un type qui vraiment lui fasse peur. Donc j'avais inventé une espèce de géant comme ça. Qui avait 8 ans d'âge mental et qui pouvait, parce que justement il avait 8 ans d'âge mental, avoir des colères terribles. Et comme il avait une force d'Hercule, il était dangereux. Et il devait apparaître un chapitre, juste là, et puis en fait il est devenu petit à petit, au fil des pages, de plus en plus présent, et il m'a permis de raconter plein de choses qui se sont imposées au fil du récit. Il y a eu ça, et puis je suis complètement d'accord avec... ce qui vient d'être dit sur les personnages. Moi, je déteste les chevaliers blancs ou les chevaliers noirs. Je pense que les personnages intéressants, ils sont au niveau de gris. Je pense que même dans la pire des ordures, en creusant bien, bon, parfois, il faut vraiment y mettre du sien, mais on peut trouver un peu de lumière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai un vrai bonheur aussi à animer des... Son auteur aurait dit, Madame Bovary, c'est moi. Bon, ok, il y a dans tous nos personnages une part de nous-mêmes. De là à ce qu'on se clone en permanence, ça serait vite pénible, et pour le lecteur et pour l'auteur. La schizophrénie va mieux, mais quand même, depuis que nous sommes d'accord, on s'entend. Non, le truc, c'est qu'il y a aussi une vraie jubilation à animer des personnages qui sont nos antithèses et qui pensent exactement le contraire. Et plus on leur donne le pouvoir, plus finalement on peut arriver au bout d'une démonstration, si tant est qu'on a envie d'en mener une. Enfin, je crois que c'est la meilleure des techniques.
Les enfants vont avoir à résoudre nombre de problèmes que nous leur laissons. Les adultes aussi doivent se métamorphoser. En quoi l'imaginaire peut-il répondre à ces défis? Et quels seraient selon vous les mythes nouveaux ou réactualisés qui pourraient accompagner leur croissance? Et peut-être à cette occasion, pouvez-vous nous parler de vos projets?
C'est une question très, 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 très vaste. J'ai jamais imaginé qu'en tant qu'écrivain, je puisse éclairer un chemin pour ceux qui vont me suivre, pas plus pour mes enfants que pour mes petits-enfants. J'ai jamais imaginé ça parce que... alors, je peux peut-être être un éclaireur, nous pouvons peut-être être des éclaireurs, mais je pense rien de plus, quoi.
Je pensais pas simplement la notion d'éclaireur, je pensais d'accompagner un mouvement.
Bah déjà, il y a des mouvements, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Et puis surtout, moi, ce qui me préoccupe surtout, et justement, je crois que le fait d'être écrivain, d'être artiste, créateur, va un peu contre ça. C'est le repli en micro-communauté des individus. C'est un des résultats les pires, il n'y a pas que des mauvais résultats, mais de la révolution technologique que nous vivons. Enfin, c'est plus qu'une révolution, c'est un bouleversement absolu qui fait que beaucoup d'entre nous, et je pense beaucoup aux jeunes générations, se replient sur des communautés dont ils sont en quelque sorte à la fois le produit et à la fois un clone. Et c'est assez préoccupant parce que on tourne en rond, on creuse par communauté, par réseau et communauté, et toujours les mêmes idées. C'est comme ça que naissent, à mon avis, je pense, les comportements les plus exacerbés, les plus déraisonnables, puisqu'il n'y a plus de discussion. Je ne dis pas que ça n'existe plus du tout, mais je dis que cela existe, entre autres. Et moi, je le vois avec beaucoup d'inquiétude. Je le vois même, comme je le disais tout à l'heure, chez mes petits-enfants, sans que ça prenne, parce qu'ils sont jeunes encore, à 11 ans et 13 ans. Mais... Je vois bien comment ils fonctionnent intellectuellement avec les outils appropriés. Et je crois que si nous avons quelque chose à faire, nous, on en revient toujours au récit. C'est de revenir à cette espèce de liberté de l'histoire qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de dire, qu'on est en train d'imaginer, et qui se partage mais ne s'impose pas. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des communautés autour des grands livres. Bon, on parlait du Seigneur des Anneaux, par exemple, etc. Mais c'est d'une telle richesse. Non seulement c'est pas appauvrissant, mais c'est invraisemblablement enrichissant.
Oui, donc l'intention ne doit pas être trop forte. La stratégie non plus.
Non, bien sûr, bien sûr. Et surtout, nous devons, à mon avis, plus que jamais, tenir bon sur nos propres champs d'action. Enfin, c'est-à-dire que on est presque en guerre, en somme, parce qu'il faut absolument que cette ouverture intellectuelle, imaginaire, humaniste perdure. Sinon, elle va se rétrécir, elle va se rétrécir. Et on sait très bien que les domaines culturels aujourd'hui ne sont pas forcément en expansion. Hein. On peut pas dire. Bon. Donc voilà, je crois que c'est ça, c'est-à-dire continuer à mettre en avant ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de donner du sens au réel, de donner du sens et surtout de la faculté d'interpréter le réel. Et non pas d'imposer un sens. Voilà, je crois que c'est ça que nous avons à faire. Tenir bon sur ce que nous sommes. Mais c'est pas si facile.
Non.
Voilà. À part ça, je crois pas à l'artiste visionnaire. Hein. Je crois pas. Enfin, moi j'y crois pas. Sinon, ça existe peut-être.
Je pense que il faut, sans être didactique, sans être surtout donneur de leçons, il faut donner l'occasion au lecteur de s'interroger sur certains problèmes. Voilà. Moi, j'ai tendance à écrire sur les choses qui me perturbent, me bousculent. Donc là, récemment, j'ai publié Les Veilleurs. C'est un bouquin qui se passe dans Paris. Alors, dit comme ça, c'est des histoires de monstres. Hein. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, et des choses comme ça. Mais c'est pas ça la question. Si j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des lycéens et je leur expliquais que s'ils avaient passé un bon moment, j'avais fait le minimum syndical. S'ils avaient commencé à réfléchir à ce qui, moi, me travaillait, j'avais fait vraiment mon boulot. Mon boulot, c'est par exemple de m'émouvoir d'un truc tout simple, c'est que on est en train de parler en boucle sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les radios d'information, de quelques centaines de milliers de personnes qui demandent refuge sur la totalité de l'Europe, et de s'en émouvoir. On s'émeut beaucoup plus de où est-ce qu'ils vont aller vivre, ces gens-là, ils demandent juste l'asile momentané, hein. On s'émeut plus de leur situation que des dizaines de milliers, on n'arrive pas encore à chiffrer, de pauvres hères qui se sont noyés dans la Méditerranée. Et surtout, on ne se pose même pas la question de savoir ce qu'on va faire du 1,6 milliard d'êtres humains qui vont devoir fuir quand ça va devenir non pas des migrants à cause de la misère ou de la guerre, mais des migrants climatiques. Si on ne commence pas aujourd'hui à s'interroger, à se poser les questions, ça va devenir très très compliqué. Et si on laisse les rênes à deux ou trois clowns qui pensent qu'à la louche, comme ça on peut régler les questions en claquant des doigts ou en tweetant, oui, là il va y avoir un souci. Donc il faut, si tant est qu'on a un rôle à jouer, c'est peut-être modestement essayer à chacun à son niveau de glisser comme ça des choses, des pistes de réflexion, des modèles, en espérant, ma foi, comme la bouteille balancée à la mer, que quelqu'un va la trouver et la va la lire. Et trouver le message à l'intérieur et le lire et le déchiffrer. Et peut-être que, voilà, moi j'ai... Mais peut-être que je suis resté extrêmement naïf et toujours un peu Ulysse dans ma tête. Hein. Je rêve effectivement de pouvoir comme ça glisser deux ou trois pistes et puis de réveiller un petit peu comme ça les consciences. Je suis pas inquiet. Je pense que vraiment les gamins aujourd'hui ont une vraie conscience. On a eu comme ça une ou deux générations qui sont passées à côté du truc, mais là ils ont conscience de l'urgence et des enjeux et peut-être que si on arrive en plus à leur filer un coup de main, ils vont s'en sortir. Nous, hélas, je crois que c'est trop tard. Mais voilà.
Thierry.
Oui, mais moi je fais volontiers écho à ce qu'ont dit mes deux camarades. Hein. Je crois que un écrivain, j'ai tendance à dire, mais ça peut paraître un petit peu ampoulé comme ça, mais il a une vocation prophétique quand même. Mais le prophète, attention, ça n'est pas celui qui, comme le devin, prédit l'avenir, c'est celui qui dévoile le présent. C'est-à-dire, c'est celui qui montre le plus sincèrement possible la vérité telle qu'elle est et telle qu'elle est masquée par le je dirais, la convenance, la bien-pensance généralisée, le déferlement de guimauves médiatiques, l'intox organisé, je dirais, qui nous bourre le mou à longueur de journée sur l'ensemble sur l'ensemble des médias, en tout cas des médias officiels, des médias mainstream. Alors j'ai l'air d'un ado anard en disant ça, mais c'est resté quand même ma conviction que nous avons, nous, à témoigner, hein, pour la vie aussi, pour la défense, pour le tenir bon dont Jean-Luc vous parliez à l'instant, sur nos fondamentaux. Mais c'est quoi les fondamentaux de l'humanité en tant que telle? C'est quelque chose de très simple et qui est mis en péril justement par l'avancée décrite dans les techno-thrillers, là. C'est tout simplement la possibilité, la capacité native d'éprouver quelque chose. Et je crois que c'est ça qui est mis en danger aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés, de plus en plus nous entrons dans un monde de manière contrainte, dans lequel nous ne pourrons plus éprouver quoi que ce soit, et jusqu'à perdre même le sentiment de soi, dans l'anonymat généralisé de la conformité et de la fonctionnalité, je dirais, machinique. Voilà. Alors ça me terrifie absolument. Et d'ailleurs, ce que disait Jean-Luc à l'instant, je crois, ressorti à cette question-là, le fait qu'on puisse laisser, pour le coup, et des gens péricliter en mer, mais dans un registre qui, à mon avis, n'est pas tout à fait de même intensité, mais au fond quand même de même nature, des milliards d'animaux massacrés dans des usines de production de viande aujourd'hui d'une manière que je trouve absolument ignominieuse, où l'humanité elle-même se rabaisse, s'avilie, qu'on puisse utiliser des filets dérivants qui érodent les sols marins et qui embarquent 5 poissons pêchés pour un consommé, enfin on en est là, et la façon dont l'humanité a de s'opprimer elle-même dans beaucoup de structures d'oppression, que ce soit dans le travail ou dans la vie familiale d'ailleurs, hein, on ne le sait pas assez, on critique beaucoup l'Église là-dessus, mais ce qui peut se passer dans les familles n'est pas beaucoup plus glorieux que ce qui peut se passer dans les confessionnals, souvent. Bon, donc, et tout ça, ça nous est, je dirais, permis. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus tout simplement capable de ressentir sincèrement que j'ai en face de moi des vivants et que, pire encore, j'en suis moi-même un. Bon, cela dit, c'est un optimiste qui vous parle. Hein. Voilà.
Vous avez fait tous les deux des trilogies et vous avez aussi travaillé sur des nouvelles, des formes courtes et des formes très longues. Je suppose que dans ces deux formes, il y a des exigences qui sont très fortes. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, qu'est-ce qui fait qu'on a envie parfois de traiter d'un sujet dans une forme ramassée, comme si c'était une graine? En fait, c'est un peu Solvay et Coagula. Hein. Et est-ce que la trilogie, c'est aussi quelque chose qui permet d'aller plus loin qu'un roman, simplement? Qu'est-ce que c'est que la deuxième partie? Qu'est-ce que c'est que la troisième partie?
Bizarrement, je pensais, avant d'en faire mon métier, que l'écriture, ça se faisait au poids, c'est-à-dire que la nouvelle, c'était rapide. Et Philippe Jean a une phrase merveilleuse, je ne sais plus dans quel bouquin son écrivain dit « Écrire une nouvelle, c'est comme faire un avion en papier, le balancer par la fenêtre et le regarder voler. Se mettre à l'écriture d'un roman, c'est prendre en vol les commandes d'un 747 sans avoir le permis de pilote. » C'est un peu ça le truc. Alors effectivement, c'est rassurant parce que la nouvelle, on se dit que... Mais il y a énormément de contraintes.
Oui,
et moi, je souffre le martyr sur une nouvelle. Alors que sur un bouquin, moi, j'ai grandi à l'école Serge Brussolo. Il a une définition géniale du je vous la revends gracieusement. Hein. Il a une définition géniale. Je disais, comment est-ce que tu fais pour bluffer ton lecteur? Il me dit, écoute, c'est pas très compliqué. Tu prends la fin improbable, celle à laquelle personne ne pensera jamais. Je dis, mais oui, mais enfin, il faut la justifier. Bon, t'as 400 pages pour ça. Donc, ça marche. Et effectivement, à chaque fois, ma compagne me prend vraiment pour un dingo, mais je pense qu'elle a raison. À chaque fois, je lui dis ça, là, je sens bien le truc, j'ai bien réfléchi, ça va être court, ça va aller vite. Et puis, je me retrouve très vite à pondre une bûche de 500 pages. Je suis plus à l'aise dans ces formats-là. Pour moi, c'est un écrivain, alors que tout le monde considère que c'est juste un chanteur, et en plus, il est américain, le malheureux. Pour moi, la quintessence de l'écriture, c'est Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, en trois chapitres, Il vous place un personnage, il vous décrit une vie, il vous décrit un univers. Il y a une de ses chansons, tirée de Nebraska, dont Sean Penn a fait Indian Runner. C'est-à-dire que tout était là, dans la chanson. En trois couplets, il racontait une heure et demie de film, il racontait une vie complète. Je ne sais pas faire ça. Ce que fait Jean merveilleusement bien quand il écrit pour Escher, il nous place en trois lignes. Voilà, moi je suis admiratif de cette économie de moyens, de cette écriture au plus près de l'os qui nous amène à... Moi, j'ai besoin de plus de chair, de plus de place. Et en revanche, j'ai jamais eu de réelle volonté de faire des trilogies. Ça s'est imposé. C'est-à-dire qu'à la fin du premier bouquin, la trilogie des ténèbres, je livre le premier à l'éditeur et je suis très content de moi. Je suis content. C'est fini. Voilà. Au revoir. Il y a un début, un milieu, une fin. Et ouf. Et c'est lui qui vient me voir en me disant, mais dis donc, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Et là, je sens que le piège se referme. Donc, j'accepte d'en faire un deuxième. Et puis après, le piège, il est absolu. C'est-à-dire que, étant né au Cambodge avec du sang vietnamien, il est évident que le regard de l'occidental sur l'asiatique, je peux l'inverser. Et je voulais pas rester sur un point de vue occidental sur les asiatiques, donc je prends des Coréens du Nord et je les ramène à New York et j'inverse les rôles parce qu'il fallait boucler le truc. Mais au départ, il y avait absolument pas de volonté de ça. Volonté. C'est juste qu'il y avait encore matière à. Du coup, ça s'impose. Quand je vois les copains qui sont capables de me dire ça va être une trilogie, je suis une fois, je suis admiratif. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent raconter et tout. Enfin, l'Empire contre-attaque. Enfin, c'est toujours le. Mais ouais, je sais pas faire ça. En tout cas, c'est pas volontaire, jamais.
Merci. Thierry ?
Oui, ça me fait penser à une anecdote que tout le monde connaît, je crois. Mais il s'agit de Léon Blum, qui était en campagne un peu avant le front populaire. Hein, et il fait un préau d'école. Et puis, on lui dit, vous aurez une demi-heure. Combien de temps vous faut-il pour préparer une intervention d'une demi-heure ? Il dit, bon, je pense qu'en deux heures, ça devrait être bon. Et puis après, on revient vers lui en lui disant, ben, le programme a changé, vous n'aurez plus que 10 minutes. Combien de temps vous faut-il ? Il me dit, là, il faut bien la journée. C'est-à-dire que faire court, évidemment, c'est un exercice plutôt plus compliqué, a priori, si on veut dire autant de choses. Et quant à la trilogie... pour moi, c'est pas forcément, enfin dans mon cas, puisque j'en ai fait deux, une thriller et une techno-thriller. Dans mon cas, la tentation pour moi, ça a été d'aller plus loin, mais dans le sens non pas de la profondeur, d'aller plus profond, de repasser dans les traces et d'accompagner ou d'aller chercher les personnages dans ce qu'ils ont de plus intime, de plus particulier. Parce que en fait, ce qui est passionnant pour un auteur aussi, c'est de produire quelque chose vraiment comme l'humanité la plus sensible de ces personnages. Alors parfois, dans l'action d'un premier tome, on est tenté ou contraint de survoler. Et puis, quand on repasse dans ses pas, eh bien, on approfondit la trace, en fait. Hein. Et dans le troisième, par définition, ben là, on arrive à quelque chose d'extrêmement intime, qui nous permet vraiment d'entrer en... et de faire entrer peut-être les lecteurs en vibration avec les personnages. Oui.
Bien, ben merci beaucoup. Merci.
Ainsi s'achève cette table ronde depuis les rencontres du légendaire qui avaient lieu les 9 et 10 novembre dernier, rencontre organisée par la compagnie AMSA que nous remercions vivement, avec elle tous ses partenaires et notamment le conseil départemental qui nous hébergeait à l'Eurélium à Chartres. Si vous souhaitez réécouter cette table ronde, vous pouvez le faire sur le site internet de la radio www.radiograndciel.fr.